en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui quelqu'un qui, dans l'univers scientifique français, est l'un des grands noms de la biologie de ces 50 dernières années, François Gros, qui fut, entre autres, directeur de recherche au CNRS, professeur à la Faculté des sciences de Paris, directeur général de l'Institut Pasteur et professeur au Collège de France. François Gros, qui a été élu membre de l'Académie des sciences en 1979, qui en fut le secrétaire perpétuel de 1991 à 2000 et qui est, depuis janvier 2001, secrétaire perpétuel honoraire. François Gros, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel. Cette question récurrente posée à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. La première question, dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été, François Gros, à vos yeux, le moment essentiel ?
En quelque sorte, si on veut parler de moment essentiel, on peut voir la question sous plusieurs angles. Il est certain que on n'est même peut-être pas nécessairement la personne la mieux à même d'en juger, mais que certaines phases de la formation, de l'éducation qu'on a reçue, par exemple au plan scientifique, ont pu être essentielles. Si on fait allusion, dans mon métier qui est celui de biologiste, aux phases de découverte ou de réalisation qui ont pu constituer évidemment un moment particulier, je dirais que ça se situe dans le début des années 60, lorsque j'ai travaillé, j'étais alors dans le laboratoire de Jacques Monod, sur l'activité des gènes. Et en fait, on me catégorise comme un biologiste moléculaire. Quelquefois, les gens disent généticien. Le problème était le suivant, c'est que on savait évidemment que les gènes avaient une action au niveau de la cellule, forcément, depuis longtemps. Et on ne savait pas trop comment ça marche, c'est-à-dire au niveau de la biochimie cellulaire. Et on considérait que l'ADN, qui avait été évidemment découvert comme étant le vecteur génétique, devait bien coder en quelque sorte pour quelque chose. Alors on a pensé aux enzymes, et on avait raison d'ailleurs, mais on ne savait pas s'il n'y avait pas beaucoup d'étapes intermédiaires. Et on a longtemps hésité, et là nous avons eu la chance. D'abord, j'ai eu la chance personnellement d'être dans le laboratoire de Jacques Monod, où l'on discutait ferme sur la possibilité qu'il existe peut-être une sorte d'intermédiaire chimique de la cellule, instable, qui devait se former, se détruire très vite, pour des raisons de cinétique. Et en me rendant aux États-Unis, chez le professeur Jim Watson, donc c'était en début 61, j'ai eu la chance de pouvoir caractériser cet intermédiaire qu'on a appelé l'ARN messager. Ceci, évidemment, il n'y a pas de doute que c'était une étape importante parce qu'on voyait pour la première fois quel était le premier produit d'expression d'un gène. Et ça a été ensuite, évidemment, développé. Ça m'a valu, bon, une certaine audience, si on peut dire, si j'ose dire, mais en particulier de développer une équipe un peu plus importante. Et ça a eu, évidemment, et ça continue d'avoir certains retentissements. Donc je crois que de l'avis des autres, c'est probablement ce qui a été peut-être chez moi une des étapes importantes.
Alors, il y a eu au même moment des découvertes faites par l'équipe de François Jacob et vous avez décidé de publier en même temps le résultat de vos travaux dans la revue Nature.
Je vois que vous êtes très bien renseigné là.
C'est pas tellement l'objet de la remarque, c'est de constater quand même un exemple de solidarité assez exceptionnel quand même. Quand il s'agit de mettre en œuvre.
Vous avez tout à fait raison. D'abord, François Jacob et moi étions des amis très très proches. Je ne peux pas dire qu'il ait été directement mon patron, en quelque sorte, mais il était très proche de l'être. D'abord, ses idées remarquables sur les gènes de régulation qu'il a développés avec Monod et qui lui ont valu le prix Nobel partagé avec André Lvov et Monod m'étaient bien entendu tout à fait familières et m'impressionnaient. Mais il se trouve, et ça c'est assez cocasse, qu'il est parti lui aussi en sabbatique, si je puis dire, en fait, en mission aux États-Unis en même temps que moi, sur une autre logique. Mais lui s'est rendu sur la côte ouest des États-Unis, moi sur la côte est, puisque Watson travaillait à Harvard, donc à côté de Cambridge. Et nous avons, par des voies différentes, nous avons abouti à la même conclusion. Lui, au niveau du bactériophage, des cellules infectées par ce virus qu'on appelle le phage, et moi sur des cellules, disons, normales de bactéries, puisque c'est...
Oui, c'est-à-dire que votre découverte à vous était plus générale.
Elle avait, malgré nous, disons, un caractère plus général,
oui,
parce
ça.
Qu'on aurait pu penser que le phage, évidemment, utilisait des mécanismes un peu particuliers. Donc c'était tellement cohérent dans le temps, enfin, qu'il a été décidé par les éditeurs que nous publierions en même temps, dans le même volume, dans le même numéro du journal Nature en 1961. Ce qui fut fait.
Donc c'est un bel exemple pour les chercheurs, qui n'a pas toujours été respecté, hein, on l'a vu pour le sida par exemple.
Non,
où,
évidemment.
Malheureusement, oui. Ça s'est passé autrement. Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. François Gros, qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire sur votre domaine d'activité aujourd'hui, donc sur la biologie ?
Évidemment, comme dirait quelqu'un qu'on connaît, c'est une vaste question, pour ne pas dire un vaste programme. Mais la biologie est une science qu'on a définie comme foisonnante, ce n'est pas pour rien. Et elle a connu évidemment des étapes assez contrastées. D'abord descriptive, avec la systématique description des animaux, des plantes, etc., liées aux théories sur l'évolution. Puis ensuite, il y a eu la biochimie des enzymes. Ensuite, il y a eu la biologie moléculaire, qui est née avec la double hélice. Et puis, donc, ce que j'ai raconté tout à l'heure à propos du RNA messager s'inscrit plutôt dans la phase biologie moléculaire. Puis le génie génétique, puis la génomique, c'est-à-dire on a trouvé des techniques pour établir en quelque sorte l'ordonnancement des sous-unités qui constituent les gènes dans l'ADN. Et puis aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est confronté à un nombre de données considérables que seules des bases de données informatisées peuvent en quelque sorte classer, traiter. Et du coup, on a imaginé d'autres approches pour expliquer ce qui se passe dans la cellule. C'est la biologie dite des systèmes. Et ce qui est en train de se passer, mais c'est juste en quelque sorte au démarrage, je crois, mais c'est quelque chose qui impressionne beaucoup, même les biologistes purs et durs, c'est que l'informatique, l'utilisation des modèles informatisés, la simulation sur ordinateur, le calcul mathématique, sont en train d'essayer de trouver une logique, je dirais presque mathématique, de toutes ces centaines de milliers de réactions qui se passent à l'intérieur de la cellule, pour les classer et pour prévoir leur déroulement.
Donc les mathématiciens sont en train de rentrer dans la biologie.
Les mathématiciens, certains d'entre eux en tout cas, commencent à se passionner pour la biologie. Au point d'ailleurs que les biologistes ne sont pas toujours extrêmement contents, ce qu'on peut comprendre, et qu'on a pu discuter un peu de crise identitaire de la biologie, pas non plus trop poussée, mais c'est une tendance qui commence à se développer, et en particulier parce qu'on y voit la possibilité de prévoir l'action des médicaments.
Ah oui, donc pour l'évolution de la planète, c'est essentiel. Et il y a une formule qu'on emploie parfois aujourd'hui, à quoi correspond-elle ? Est-ce que c'est quelque chose d'important pour l'avenir de la biologie ? La formule de la biologie synthétique,
alors,
c'est quoi ça ?
Ça, c'est, j'allais y venir aussi, c'est une autre approche qui alors est plutôt dans le camp de chimistes, disons de la notoriété de Jean-Marie Lène, prix Nobel de chimiste qui s'intéresse à la biologie. Alors, le problème, c'est d'essayer de reconstruire par la chimie des situations, des réactivités très proches de la biologie. Il a inventé le terme de chimie biomimétique et il a inventé donc ces ensembles qu'on appelle les cryptates, c'est-à-dire des choses qui se comportent un peu comme des enzymes et qui ont des activités, qui sont des mélanges, qui font intervenir une sorte de cage chimique qui entoure un métal. Et là, on va beaucoup plus loin parce qu'il y a des essais pour essayer de fabriquer des ensembles chimiques ayant peut-être des propriétés voisines de celles de la cellule, c'est-à-dire reproduction, activité métabolique, etc. Dire qu'on y arrive, c'est peut-être beaucoup dire, mais que ça mobilise beaucoup de gens est exact. Et il y a actuellement une école, même ici en France, c'est pas tellement pour la reproduction que pour mimer des activités enzymatiques, en particulier des hydrogénases. L'école de Marc Fontcave, en particulier, qui est professeur au Collège de France, développe beaucoup de choses dans ce domaine.
Et le terrain d'application de ces recherches, concrètement, ça touche à quoi ?
Justement, c'est d'arriver à fabriquer des pseudo-enzymes, ou des ensembles pseudo-enzymatiques, qui seraient extraordinairement résistants, parce qu'ils sont chimiques au lieu d'être, disons, biologiques, et qui soient capables, par exemple, de produire de l'hydrogène, de décontaminer, d'être des enzymes de dépollution, des choses de ce genre, en quelque sorte, qui tournent autour de la... ou de la bioénergétique ou de la lutte contre les pollutions.
Alors nous sommes en plein débat sur le renouvellement des lois bioéthiques. On ne va pas rentrer dans le détail de ce débat, bien sûr. Mais pour n'envisager qu'un seul des problèmes posés par ce renouvellement, à votre avis, jusqu'où faut-il aller ou ne pas aller dans l'encadrement de l'utilisation de la génétique aujourd'hui ? Par exemple, un point très très précis, le débat sur les OGM.
Le débat sur les OGM, évidemment, n'est pas nouveau. Ça a assez mal commencé parce que c'est parti, en quelque sorte, d'une vision industrielle. La vision elle-même n'était pas fausse, mais la manière dont les choses se sont passées est contestable. Tout de suite, la chose a été portée au niveau, disons, pseudo-économique, pour ne pas dire rentabilité. Et ça, ce n'était pas bon pour une découverte qui était tout de même importante. Alors, il faut rappeler que ça a été l'objet de travaux très fondamentaux au départ, dus à un groupe comme deux grands biologistes belges, Montagu et Jeff Schell. Ce sont des gens extrêmement respectables. Jeff Schell était prof au Collège de France, qui est malheureusement décédé, et Montagu, qui est toujours de ce monde. Alors, l'idée elle-même est une idée intéressante, dans la mesure où on peut fabriquer, évidemment, des plants doués d'activités qui leur permettent d'être, disons, d'avoir de meilleurs rendements de culture, de résister à toute une série d'attaques biologiques ou autres. Et actuellement, ce que l'on constate, c'est qu'un certain nombre de pays ont adopté plus ou moins bien cette technologie. Je crois que le nombre d'hectares qui sont utilisés n'est plus tellement loin de 150 millions aujourd'hui dans le monde. Alors, en Europe, et peut-être à juste titre, on a dit, attention, d'une part, si on développe trop vite et sans prendre de précautions ce genre de technique, on risque peut-être de modifier les équilibres biologiques. Et là, on a eu raison de regarder ce qui se passait, alors qu'on a été un peu vite au départ. Et du coup, on a fait tout de même toute une série de vérifications, de contrôles, en particulier... Un des contrôles les plus importants est de savoir si ces plantes, une fois consommées, ont des effets directs sur la santé de l'homme. Il ne semble pas, d'après la plupart des rapports des agences qui ont porté leur attention sur cette affaire, il ne semble pas qu'il y ait de toxicité directe. Alors la question, est-ce qu'il n'y en a pas d'indirect au niveau des autres plantes, des insectes, etc. Alors, on ne peut pas dire qu'on ait fait le tour complet du problème, mais ce que je constate, c'est que depuis tout de même quelques années, les choses ont pris une approche plus raisonnable et qu'il faut malgré tout se garder de positions idéologiques.
Oui, la diabolisation.
La diabolisation, d'autant plus que je crois qu'effectivement, un jour, on pourra peut-être utiliser ces plantes, même à des fins pharmaceutiques. Par exemple, pour produire des anticorps ou des choses de ce genre. Et lutter contre la faim, bien entendu.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel, donc en élargissant les perspectives à votre regard sur l'évolution du monde en général et l'évolution de notre propre société. Qu'est-ce qui, sur ce plan, François Gros, vous paraît essentiel à dire ?
Je ne sais pas, évidemment c'est un peu prétentieux de vouloir donner sa vision sur le monde.
Il y a une part de jeu, bien entendu, dans ce type de question.
Oui, il y a une chose qui me frappe beaucoup, et je ne crois pas être le seul, notamment à l'Académie d'ailleurs, des sciences, c'est le problème démographique. C'est le fait que, à partir du moment où la démographie a atteint les limites que l'on sait, c'est-à-dire on est 6 milliards, mais on est un peu plus déjà, et que d'après les projections qu'on peut faire assez précises sur toute une série de paramètres en fonction du taux de développement des familles, on devrait donc, que tout le monde le sait, atteindre 9 milliards dans les environs de 2050. C'est quelque chose qui remet en question à la fois l'équilibre des gens entre eux, le problème des épidémies, le problème de la faim, parce qu'on n'a pas encore de solution définitive pour produire autant d'aliments qu'il ne le faudra. Le problème de l'eau, qui est un problème extraordinairement grave aujourd'hui, parce qu'une grande partie de la population des pays du Sud n'y a pas accès, ou a accès à des eaux qui ne sont pas consommables, et qui du coup donnent lieu à des maladies terribles. On chiffre le nombre d'enfants qui meurent chaque année. J'en ai rediscuté là il n'y a pas très longtemps avec André Capron. Plus de 2 millions par an de maladies diarrhéiques, de maladies qui sont causées par la consommation d'eau qui ne sont pas consommées. Alors vous me direz, oui, et la démographie dans tout ça, et bien justement, le fait d'avoir de plus en plus d'enfants dans des zones déshéritées est quelque chose qui est très grave. Donc il faut prendre en compte ce problème et... Ça n'est pas facile.
Oui, d'autant que ça met en jeu aussi tous les équilibres économiques, non ?
Ça met en jeu beaucoup d'équilibres économiques, oui. Justement.
Et vous avez créé, vous, au sein de l'Académie des sciences, un comité du développement il y a maintenant une quinzaine d'années. Quelles sont les idées essentielles que vous avez voulu faire passer sur ce plan-là ?
Alors, je dirais que c'est à la fois très complexe et très simple.
S'il y avait une idée à faire...
C'est d'aider les pays en développement à avoir un meilleur accès à la science au niveau de leur éducation de base, à l'école, mais aussi au niveau de l'enseignement supérieur et scientifique et technique. Pourquoi ? Parce que des pays qui ne disposent pas d'une masse critique de scientifiques et d'experts, notamment dans des domaines techniques, sont des pays qui auront du mal à ne pas être dépendants des autres, qui ne vivront forcément que sur l'exportation de leurs ressources naturelles et sur le commerce, bon, ce qui n'est pas en soi rédhibitoire du tout, il en faut, mais qui du coup seront tout de même toujours dépendants et ne pourront pas avoir accès ni à des structures industrielles, ni à une économie d'échange. Alors il ne s'agit pas pour le moment de faire uniquement le plaidoyer de l'économie de marché, mais tout de même, il faut que les gens des pays du Sud puissent avoir accès à la même connaissance dès l'enfance que ne l'ont les gosses des pays du Nord.
Et qu'ils gardent leur cerveau.
Les gardent, absolument. Et encore, peut-on dire, et Pierre Léna et Kerel diraient mieux que moi, que même dans les pays du Nord, l'enseignement scientifique, notamment au niveau de l'école, le primaire, n'est pas encore totalement ce qu'il devrait être. Il est surtout un enseignement qui est donné et généralement accepté d'une façon un peu passive, pour des raisons qu'on ne peut pas analyser ici, alors que la science est avant tout l'éloge d'une curiosité saine sur les choses de la nature.
Et quand à notre société elle-même, la société française, qu'est-ce qui vous frappe dans son évolution ?
Au niveau de l'évolution de la société elle-même, ce qui me frappe, et c'est peut-être évident de la part d'un homme âgé comme moi, et c'est une interrogation permanente, c'est pas la première des personnes d'âge, je regarde avec émotion, passion aussi, quelquefois un peu d'étonnement, c'est vrai, l'évolution de la jeune génération, en essayant de... C'est pas facile de dire voilà quelle est l'optique et la forme de pensée des jeunes aujourd'hui. C'est une extrapolation un peu rapide. Hein. Mais tout de même, c'est un peu le genre de question qui est important parce qu'on l'a évoqué peut-être de manière un petit peu particulière au moment de la question des retraites. Mais il n'en demeure pas moins qu'on aimerait savoir comment la société va évoluer entre l'esprit, le cerveau et les mains de cette génération montante, qui visiblement a des comportements intéressants, à la fois beaucoup plus ouverts à la discussion, beaucoup plus ouverts même à certaines formes de culture. Regardez, la communication, c'est extraordinaire. Des gosses de 7 ans maintenant sont capables de nous en montrer.
Donc il y a des barrières qui peuvent tomber.
Absolument. Et pas seulement des barrières techniques, mais des barrières géographiques. Et d'un autre côté... Ils frappent quelquefois les gens d'âge parce qu'ils n'ont pas les mêmes critères de comportement vis-à-vis des personnes âgées, le respect vis-à-vis des familles. On dit qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs, ce qui est peut-être un peu rapide. Parce que quand on les interroge, en réalité, dans le fond, ils les ont. Elles ne sont pas exprimées de la même façon. Et ils ont surtout, alors ça c'est le point le plus important, une angoisse vis-à-vis du monde qui est en train de se développer. Angoisse vis-à-vis de leur profession, qu'est-ce qu'ils vont faire dans le monde, ce monde si rapide, si diversifié, où vont-ils se placer en tant qu'individus ?
Oui, angoisse d'autant plus forte probablement qu'ils mettent en cause le système de valeurs dont ils ont hérité, c'est-à-dire que les balises, il n'y en a plus beaucoup. Quoi.
Ben non, parce que, y compris au niveau économique.
Oui, c'est ça, c'est un... au fond nous avons été des privilégiés, nous d'une certaine façon, enfin, en tous les cas les années 70. Quatrième question récurrente de notre série L'Essentiel. Pour vous, François Gros, quelle est la plus grande hypocrisie de notre temps ? Alors là aussi, il y a une part de jeu dans la question, hein, bien entendu.
Il y a peut-être pas mal d'hypocrisie d'une manière constante. Il y en a eu peut-être eu dans tous les siècles et sous tous les gouvernements. Parce que l'homme, Pascal l'a bien dit, n'est pas ni ange ni bête. Hein. Mais moi, ce qui me frappe, mais ça c'est une déformation qui est liée au fait que je m'intéresse aux pays en développement, c'est que je suis de plus en plus frappé par le discours que l'on tient, et qui est un discours très sain, discours de solidarité internationale vis-à-vis des gens qui n'ont pas accès justement aux ressources minimums, les gens pauvres et les gens démunis, les migrants, etc., et en même temps, le fait que On le tient au plus haut niveau, mais une fois qu'il s'agit de le faire concrètement, on a le sentiment que ça n'avance pas beaucoup, que ça n'avance pas très vite. Alors, j'exagère un peu. Je sais que, par exemple, le nombre de personnes dans le monde qui souffrent de la faim, qui était légèrement supérieur à 1 milliard, ce qui est énorme sur une population de 6 milliards, des gens qui crèvent vraiment de faim dans les pays du Sud et dans les pays du Nord, et tout de même passé au-dessous de la barre de 900 millions, d'après les dernières choses. Donc il y a eu tout de même des choses qui ont été faites. Maintenant, il reste des épidémies. L'histoire d'Haïti est tout de même horrible. Elle nous montre qu'au XXIe siècle, il y a encore des choses étonnantes.
Mais c'était évitable, ça ? Vous pensez que c'était évitable avec les moyens que nous avons ou...
Bon, on ne peut pas toujours dire c'est la faute à l'autre, mais il y a toute une conjonction de choses. Bon, c'est-à-dire qu'il fallait pouvoir agir très vite. Il fallait en même temps convaincre par l'éducation, notamment des femmes, des mesures qu'il fallait prendre justement vis-à-vis de la consommation de l'eau. Il fallait pouvoir mobiliser rapidement. Alors, on a fait, je ne veux pas dire qu'on n'ait pas fait des choses, hein, au niveau des ONG, des choses même remarquables. N'empêche que ça montre qu'on est fragile. Il y a eu aussi le sida, à un moment donné, où personne n'attendait ce type de maladie. Elle est venue à un moment où on pensait que les grandes maladies allaient être éradiquées. Et puis, paf, voilà une maladie tout à fait d'un type nouveau, quoi.
Mais pour faire face à ces problèmes, il faudrait pouvoir mobiliser la science, mobiliser la technique. Or, il y a tout un discours écologique sur la science et la technique qui les remettent en cause d'une certaine façon. Est-ce que vous êtes à l'aise ou mal à l'aise face à cette revendication rousseauiste de l'équilibre naturel, de toutes ces choses-là, vous, en tant que grand scientifique ?
Je suis un homme assez bienveillant, donc fondamentalement, je n'épouse pas vraiment la cause écologique, parce que je vois que quelquefois, elle va vraiment trop loin. D'un autre côté, je comprends un peu l'origine, les racines de cette... Il faut se replacer dans son contexte historique, c'est-à-dire de l'après-guerre. Avoir vu les horreurs de la guerre et se dire qu'après tout, en dépit des progrès qui avaient déjà été réalisés, disons même avant, au début de la guerre, il s'est passé des choses horribles et que l'homme revenait parfois, certains hommes, à des attitudes d'animaux féroces à l'égard d'autres hommes, a pu faire réfléchir des gens en se disant « il faut revenir à un équilibre ». Et d'ailleurs, c'est pas pour rien d'ailleurs que le mouvement est parti en grande partie de l'Allemagne d'ailleurs elle-même.
Vous faites un lien entre les deux.
Je crois que je peux me tromper, mais je me demande si les premiers écolos, comme on dit, les verts, comme on les appelait à l'époque, beaucoup sont venus de l'Allemagne, c'est parce que beaucoup ont eu envie de trouver autre chose. Il fallait faire quelque chose qui ne soit pas trop politisé, en même temps plus proche d'un équilibre de la nature. Donc, de ce point de vue, il y a quelque chose qui me séduit en eux. Et d'un autre côté, ils vont quelquefois un peu loin. Et je crains qu'ils ne condamnent trop vite la démarche scientifique qui est fondamentalement, il n'est pas une démarche de fric, comme ils ont l'air de le dire, mais qui est une démarche aussi de curiosité, en quelque sorte de solidarité aussi, projetée vis-à-vis de la société d'une manière générale. Et mon vœu de vieille personne, c'est d'essayer tout de même de réconcilier les deux. Je sais qu'il y a des écologistes qui sont tout de même en faveur d'un grand rapprochement avec la science. Il en existe dans notre pays.
Cinquième question récurrente donc de notre série L'Essentiel. Quel est, François Gros, l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir ?
Moi, j'ai été très ému par l'élection d'Obama. Bon, on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, actuellement, il a reçu une raclée, comme il a dit lui-même, au niveau électoral. Ça veut rien dire. J'ai connu aussi les États-Unis il y a longtemps.
Oui, vous êtes arrivé là-bas dans les années 60, début des années 60.
Avant, non, plutôt dans le milieu des années 50.
Et c'était impensable.
Plus exactement, en 53.
La perspective de l'élection d'un noir.
Ça avait déjà évolué, il ne faut pas dire ça. Non. Mais tout de même, bon, balader Harlem à New York, c'était pas évident, des deux côtés, pour des raisons qu'on peut expliquer. Bon. Et là, élire un homme de couleur, comme on ose dire, mais pas un blanc, c'est quelque chose qui était formidable et tout le monde a été ému par ça et s'est dit, enfin, le côté profond, culturel, généreux des États-Unis se manifeste précisément dans cette élection. Pour moi, ça a été un peu quelque chose comme pour l'élection du grand leader d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, sur un autre plan, bien sûr, mais pas tellement loin. Et je trouve ça très... Enfin, c'est une des choses qui marque notre siècle. Une autre chose, justement, qui me donne le plus d'espoir, c'est, je crois, j'espère, l'évolution culturelle de l'Allemagne, précisément. dont on a vu qu'elle était l'épicentre de choses qui n'étaient pas très plaisantes, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui se trouve être un pays européen qui se veut d'être désormais un peu au centre d'un équilibre social.
Alors je rappelle qu'en 1940, vous n'aviez vous qu'une quinzaine d'années, et ça ne vous a pas empêché de multiplier les actes de résistance au péril de votre vie.
Oui, on peut le dire. J'en ai pas fait autant que j'aurais dû, certainement.
Enfin, quand même.
Mais j'ai été
vous devez la vie sauve au fait d'avoir sauté dans le train, non ?
L'Allemagne, comme juif d'ailleurs, et puis comme quelqu'un qui était marqué à la fois par le régime français de l'époque et en même temps indirectement par les Allemands, et dont le nazisme, évidemment, était l'un des spectres absolument terribles pour ma famille et moi. Mais justement, je crois que, il y a une transition, il y a une évolution, j'espère qu'elle sera durable, je le crois. Et puis le troisième point, c'est le développement des pays émergents.
Mais quand vous dites les pays émergents, ce ne sont pas les pays en développement de là-bas, ce sont les pays intermédiaires, genre Inde, Brésil, Chine ou...
Ils sont toujours un peu entre les deux. D'abord, parmi les pays en développement, il y a toutes les gammes qu'on peut imaginer. Il y a les pays très très pauvres, qui sont au cœur de l'Afrique. Il y a des pays, et même en Asie du Sud-Est, il y a des pays qui sont encore en développement. Et puis, il y a des pays dont l'économie est assez costaud, si je puis dire, actuellement. Je pense évidemment à la Chine, à l'Inde et à d'autres.
Et vous ne craignez pas que ces pays aient, par rapport aux pays les plus pauvres, la tentation de l'égoïsme, au fond, de faire comme nous?
Si, je le crains. Mais d'un autre côté, le fait qu'ils aient pu atteindre à cela, je pense à la Chine en particulier. Moi, je me suis occupé du programme de recherche avancée franco-chinois pendant plusieurs années. Je connais pas trop mal la Chine. Alors, c'est effectivement, la Chine est un paradoxe, comme tout le monde le sait, à la fois un mélange au niveau politique assez curieux, mais enfin, et en même temps, qui a réussi à atteindre une économie assez extraordinaire pour en faire bientôt peut-être la deuxième puissance économique du monde. Mais c'est important pour des Chinois qui mourraient de faim. Ils peuvent basculer vers une sorte de néocolonialisme, même s'ils ne s'en rendent pas compte.
On le voit en Afrique, ça.
Voilà, en particulier en Afrique, oui. Donc il faut faire très attention de ce côté-là. Il faut justement qu'ils profitent de cette transition pour essayer d'en tirer les leçons et d'être un pays équilibré.
Sixième question récurrente dans notre série L'Essentiel, la réponse est facultative, François Gros, parce qu'il s'agit là d'une question quand même beaucoup plus personnelle. Quel a été le plus grand échec de votre vie et comment l'avez-vous surmonté ou avez-vous tenté de le surmonter? Vous n'êtes pas obligé de répondre, Vous pouvez dire joker.
Non, mais je vais bien. Alors, d'un côté, je dirais qu'il y a beaucoup d'échecs dans nos vies. C'est très difficile, d'ailleurs, de le juger nous-mêmes. C'est plutôt les autres qui peuvent dire que...
Mais il est intéressant d'avoir une perception quand même.
Ou on a été trop loin, ou que contrairement à ce qu'on pensait, qu'on croyait être une réussite, était un cuisant échec. Donc, c'est pas très facile. Si j'essaye de scruter un peu ma vie, au niveau personnel, ça a été à la fois un échec, mais dont j'ai surmonté, disons, de façon assez remarquable et conséquente. Je suis pas le seul à avoir connu un premier mariage qui a pas réussi, mais qui a tout de même duré 10 ans. Il y a eu ensuite une incompatibilité, un divorce. C'est jamais amusant, et ça ne l'était pas en particulier à l'époque. Aujourd'hui, on me dit que 8 couples sur 10 ne s'entendent pas, donc c'est devenu très banal. À l'époque, ça ne l'était pas tellement. Et là, c'est pas quelque chose de très amusant de rompre avec quelqu'un qui en a vécu. Mais j'ai retrouvé quelqu'un de formidable. Ça fait 46 ans que nous sommes ensemble. Il n'y avait pas d'enfant du premier coup, puis j'ai 3 grands-enfants du second. J'ai su que c'est assez amusant parce que ma première épouse a eu 3 filles et moi 3 garçons. Alors nous sommes convenus que nous n'étions peut-être pas faits pour nous entendre. Mais donc, cela dit, a été passagèrement difficile. D'un certain point de vue, un échec des deux côtés. D'un autre, ça nous a permis de retrouver un équilibre. Donc, est-ce qu'il faut l'appeler un échec? Non, je crois pas.
Car ce qu'il y a d'étonnant, si vous me permettez d'évoquer ainsi votre vie privée, tous les deux, vous avez réussi votre deuxième vie. Alors, compte tenu de votre expérience et avec toute la modestie, bien sûr, que cela implique, est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner à d'autres? Parce que réussir tous les deux à refaire votre vie de façon très agréable, c'est quand même assez rare, ça.
Moi, je ne crois pas qu'il y ait de règles qu'on puisse mettre en avant pour ce genre de situation. On ne va tout de même pas aller vers un système dans lequel on repasserait son permis de conduire, si je puis dire, tous les 10 ans. On peut imaginer des situations comme ça, mais ça me paraît tout de même un peu cocasse et un peu difficile. Je crois que ce qui est important, c'est l'amour qu'on peut donner à un homme ou à une femme. Les gens qui ne l'ont pas connu, alors là, c'est terrible. Je ne sais plus qui disait, c'est l'amour qu'on porte à un être ou à un chien, mais ne pas douter de l'amour même. Mais là, le fait, bon, on peut se tromper, il peut y avoir des incompatibilités de différentes sortes. Mais il faut ensuite retrouver l'amour qu'on porte à une personne et éventuellement à ses enfants. Donc, non, je ne crois pas être très fort pour donner un conseil ici.
Alors, nous parlions d'échecs. Je voudrais évoquer un moment particulier de votre vie. Vous avez, de 81 à 85, été conseiller à Matignon de deux premiers ministres, Pierre Mauroy, puis Laurent Fabius. Il se trouve qu'au cours de ces années-là, il y a eu l'affaire du sida. Cette expérience vous a laissé un sentiment d'amertume profond ou...
Elle m'a abattu, vous l'imaginez, parce que c'est une affaire qui, juridiquement, a duré 12 ans, dont toute la communauté scientifique internationale est parfaitement au courant et savait que j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Et peut-être me suis-je trompé, peut-être n'ai-je pas fait tout ce que j'aurais dû. Apparemment, la justice ne m'a pas donné tort, in fine. Quand je dis « ne m'a pas donné tort », c'est une formule un peu lapidaire, parce que nous étions plusieurs dans l'affaire. Cela dit, c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que j'étais peut-être pas fait pour tremper dans l'arène du monde politique. J'aurais peut-être mieux fait de rester dans mon laboratoire.
Enfin, on vous doit quand même la création, avec deux ou trois autres personnes, la création d'un ministère de la recherche et de la technologie. Ça, ça a quand même été un point
avec
important.
Avec François Jacob.
Oui, vous êtes deux ou trois.
Nous sommes
ça a été une avancée, ça.
Deux, François Jacob. D'ailleurs, Pierre Aigrin et moi avons proposé la création des ministères de la recherche et de la technologie. Ça peut paraître bizarre aux gens aujourd'hui. Ce n'était pas le cas parce que jusqu'alors, c'était soit le ministère de l'Éducation, soit le ministère de l'Industrie.
L'idée, c'était quoi ? C'était de combler le fossé qui existait entre l'industrie et
l'idée, c'était que la recherche allait tellement loin déjà, tellement vite, et l'éducation devenait tellement prégnante en même temps qu'un ministère tout seul ne peut pas tout faire à la fois. Bon, on peut le concevoir, l'idée en soi est bonne, c'est-à-dire de corréler les choses. D'ailleurs, les Japonais le font. Ils ont des ministères avec 36 déliminations. Mais là, il nous apparaissait qu'il fallait qu'on mette un accent, un effort particulier sur la recherche et les techniques. Et nous avions proposé, dans le rapport qu'on a fait à Giscard d'Estaing, la création d'un tel ministère.
Et vous dites, oui, justement, que vous avez proposé cela sous Giscard d'Estaing. Ça a été mis en œuvre plus tard. Vous, le scientifique qui avait donc l'habitude de vivre dans une échelle de temps qui est quand même assez étalée, comment voyez-vous à ce moment-là donc, le rythme d'un Premier ministre, par exemple ?
Je crois que c'est ça la question.
Oui.
C'est que si je n'avais pas été trempé en quelque sorte dans le milieu ministériel, et pas des moindres, parce que c'était le Premier ministre, et tout de même un peu aussi par le Président de la République, je n'aurais, et surtout le premier cas, je ne me serais pas rendu compte de la pression phénoménale qui pèse sur les épaules de ces gens. Alors on dit, ouais, mais ils l'ont bien voulu, ils sont responsables, etc. C'est vrai, ou bien qu'il y en ait qu'ils le fassent. Or là, l'aspect chronologique, temporel, dirais-je, chronologique des choses, est tel qu'on est obligé parfois de prendre des décisions avec une rapidité qui semble exclure même l'énorme délai de réflexion que les scientifiques se donnent dans leurs travaux.
D'où la nécessité d'une culture et d'un instinct, c'est ça ?
Absolument. Donc, c'est une transition quand des scientifiques participent de la vie politique, ce qui est souhaitable aussi, bien entendu. Il faut déjà qu'ils se préparent à ce genre de réflexion, d'atmosphère générale, qui les amène justement à serrer très vite des questions.
Septième et dernière question récurrente de notre série « L'essentiel ». Aujourd'hui, quelle est, François Gros, votre motivation essentielle dans la vie ?
Oh, je dirais, vous savez, quand on a mon âge, on ne peut pas non plus projeter trop de choses, mais ce que je fais, ce qui m'intéresse beaucoup, je ne travaille plus en laboratoire depuis déjà quelques années. J'ai encore ce qu'on peut appeler, oserais-je dire, des élèves. Certains sont même à un niveau tellement élevé qu'on n'ose pas dire ça. Mais c'est d'essayer de m'informer de la science, de la biologie en particulier, puisque c'est un peu mon métier. Donc de lire, d'écrire des bouquins. Je suis en train d'en préparer un, mais je ne veux pas faire de publicité sauvage ici. Je m'occupe beaucoup des pays en développement. J'ai donc créé ce comité pour les pays en développement. Et il se trouve que la réunion des académies du G8, qui est élargie à 5 autres pays, ça fait 13 pays, cette réunion va être placée sous l'égide de l'Académie des sciences au mois de mars. Et là, justement, l'un des thèmes, c'est l'éducation pour le développement. Donc ça m'intéresse beaucoup et c'est quelque chose qui rejoint tout à fait mes idées.
Alors, dans le grand débat qui s'est engagé à propos du livre de Stephen Hawking, donc le grand mathématicien Stephen Hawking, le grand dessin, donc il y a cette phrase, il n'est pas nécessaire d'invoquer Dieu pour appuyer sur la touche on et faire démarrer l'univers. Alors je ne sais pas s'il savait à quel point une phrase pareille allait déclencher un débat, mais vous, quelle est votre réaction à une phrase comme celle-là?
C'est très difficile de répondre parce que où on est quelqu'un de tellement ancré dans la spiritualité religieuse et la croyance qu'on dit, bon, c'est Dieu qui a créé le Big Bang, donc a créé ce qu'il y avait avant. Ou bien on essaye de comprendre, et ça c'est aussi la démarche des scientifiques, comment a-t-il pu se faire qu'à un moment donné, il y avait donc des choses d'une densité phénoménale, même incroyable.
Mais est-ce que Claude Allègre a raison selon vous lorsqu'il dit « la science permet à l'homme de pénétrer chaque jour un peu plus dans le domaine de Dieu » ? Est-ce que c'est ça la question en fait ?
C'est pas iconoclaste. Par exemple, dans la Bible, un certain nombre de prophètes disent que ce qui est important, c'est justement la connaissance. Alors, là-dessus, on a beaucoup brodé, parce qu'on a dit, il y a ceux qui disent qu'il y a la connaissance mystère, c'est-à-dire il y a des mystères qui n'appartiennent qu'à Dieu, et que l'homme est là sur terre uniquement pour respecter ses volontés, mais en même temps, ils disent que l'ignorant ne peut pas être complètement pieux. C'est ce qu'ont dit un certain nombre de grands prophètes. Donc, il faut qu'ils connaissent. Et là, il y a toujours eu une dualité sur l'exégèse de l'arbre de la connaissance.
Mais vous, est-ce que vous vous posez une limite dans ces questions-là ? Est-ce que, par exemple, la question de l'avant-Big Bang, vous vous la posez ?
Ah ben, comme tout le monde, je dirais.
Oui, vous vous la posez.
Bien entendu. Alors, dire que je n'ai pas une certaine spiritualité serait faux. Mais moi, je ne la place pas tellement là. Je la place plutôt dans le... disons, dans le respect humain et dans les relations que l'on peut avoir vis-à-vis de l'homme. Alors, je m'empresse de dire qu'on connaît aussi de plus en plus de choses sur les mécanismes de l'hominisation, hein, et qu'on va en connaître encore davantage avec la génomique, mais ce n'est pas une raison. Pour moi, donc, je suis assez près d'une spiritualité qui débouche sur un amour de l'homme.
Une spiritualité qui est marquée par vos origines juives ou pas ?
Oui, à la fois juive, mais je comprends en même temps la démarche chrétienne,
oui, alors,
tout
il faut
en restant
dire, je crois que sans trahir un secret,
juif.
Oui, oui. C'est ça. Votre femme est catholique et pratiquante. Vous êtes au fond condamné à la tolérance, vous. En
absolument.
Couple, c'est merveilleux, ça.
Oui.
C'est merveilleux.
Sans parler de, évidemment, de ma plongée dans le monde scientifique.
Oui, bien sûr.
Alors, ce que je déteste, oui, c'est l'intolérance. Et ça, ça me rend furieux, moi.
Est-ce que vous croyez que les scientifiques et les gens qui s'intéressent aux questions de spiritualité doivent essayer de discuter de plus en plus ensemble ?
Bien sûr.
Oui.
Oui, oui, oui. D'ailleurs, j'essaye avec une personne qui s'appelle Madame, qui a un nom assez formidable, qui s'appelle Tournafond.
Ah oui, ici,
oui,
au sein de l'Académie,
au sein de
l'Institut.
L'Académie des sciences morales et politiques, oui, et de l'Académie des sciences aussi, de réunir des gens qui débattent de ces différentes questions, à la fois très scientifiques et en même temps de spiritualité, à la fois catholiques, juifs ou autres. Bon, mais ne faisons pas des petits tas isolés. Et nous essayons justement de faire en sorte qu'on comprenne un peu la vision différente des gens. Bon, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas non plus pas le métier de philosophe, et je le regrette d'ailleurs, mais je crois qu'il faut faire un effort et que c'est aux gens de l'âge peut-être de faire cet effort. En se tournant un peu vers les autres, c'est vraiment la chose la plus importante qui nous reste.
Une sagesse, quoi. Mais qu'est-ce que votre activité de scientifique vous a le plus appris sur vous-même ?
Sur l'humain ?
Sur vous-même.
Sur moi-même.
Oui, et puis sur nous aussi, sur nous les autres, mais sur vous-même.
Évidemment, pas mal de choses, quand on est biologiste en particulier, bien entendu, mais surtout qu'ancien pastorien, avoir travaillé quelque temps là-bas, toute la partie des mécanismes de la pathologie, naturellement. La chose qui est passionnante, c'est comprendre comment fonctionne le cerveau, et de voir s'il y a malgré tout un déterminisme scientifique. Le mot est un mot qu'on n'aime pas en général, mais des mécanismes également neurobiologiques qui pourraient être à l'origine de certains types de comportements. Donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que ça m'a appris des choses sur moi ? Oui, quand on lit peut-être certains traités de neurobiologie à propos des comportements, on peut se retrouver dans une certaine catégorie. Mais je crois que ça va pas beaucoup plus loin.
Mais quand Jacques Monod, vous me le rappeliez dans une conversation récente, dit « le cerveau, il y a une limite, on ne pourra pas aller plus loin, on ne pourra pas savoir plus que... »
Oui,
vous partagez cette idée, ça ?
J'aime pas trop, parce que d'abord, on constate qu'on va tout de même de plus en plus loin avec l'utilisation non seulement de la biologie cellulaire et de la génétique, d'ailleurs, mais aussi de l'imagerie, qui est évidemment une chose assez fantastique, et qu'il n'en est vraiment qu'à ses débuts. Et on commence à voir un peu comment fonctionne, enfin plus qu'un peu, des zones cérébrales en fonction de telle réceptivité du cerveau vis-à-vis du monde de l'environnement, de l'éducation, etc. et des émotions. Mais d'un autre côté, mon maître Monod avait quelquefois des positions un peu tranchées qui faisaient sa force en même temps. Il disait, le cerveau humain ne peut pas comprendre le cerveau humain pour des raisons thermodynamiques, parce qu'il faut quelque chose qui soit supérieur pour pouvoir le comprendre. Et lui, qui n'était pas vraiment un spiritualiste au sens dont on a discuté, ne se rendait pas compte qu'il était en train de...
Oui. Bon, de faire appel à Dieu, en fait.
Voilà. Mais d'un autre côté, c'était un homme de grande ouverture, de très formidable intelligence, qui connaissait lui-même, et ça c'est rare, et qui à la fin s'est penché sur ses propres limites, quitte à critiquer lui-même les ouvrages qu'il avait écrits. Il a dit à un moment, le hasard et la nécessité, qui était son grand œuvre là, littéraire, je comprends, c'est un livre ennuyeux, vraiment difficile, etc.
Difficile peut-être, ennuyeux, oui. Certainement pas. Quelle est la principale question que vous vous posez sur vous-même aujourd'hui ?
De savoir qui je suis.
Vaste programme, comme vous le disiez tout à l'heure, général de Gaulle.
De savoir peut-être... qui je suis. Bon, on finit par mieux se connaître tout de même avec le temps. Et on voit un peu ses défauts majeurs, et je sais que j'en ai beaucoup. Et puis, on essaye malgré tout de continuer. Et ce que je sais de moi, c'est que, en fait, j'ai peut-être une trop grande sensibilité, que j'essaye d'aider les gens. Je suis de plus en plus sensible, disons, aux gens qui sont démunis, à la pauvreté, c'est vrai. Mais d'un autre côté... je suis pas non plus un saint, hein, et comme dirait Spinoza, chaque essence en soi essaie de se défendre, donc je fais comme les copains, bon, j'ai probablement des aversions autant que les autres vis-à-vis de tel ou tel, mais en même temps des sympathies. Non, voilà. Mais j'aimerais d'une part comprendre, et ça c'est ce que disait déjà mon maître Monod, et d'autre part pouvoir aider davantage si je le peux. Et puis en même temps... Il y a des choses que j'aimerais bien connaître. J'aimerais bien savoir ce que va donner la biologie synthétique en particulier.
Ainsi s'achève cet essentiel consacré donc à l'un des grands noms de la biologie moléculaire en France, un homme pour lequel science et humanisme sont indissociables, vous l'avez compris, François Gros, secrétaire perpétuel honoraire de l'Académie des sciences. François Gros, merci et merci à tous et à toutes d'être avec nous.